אנחנו קוראים בספר פסח מתוך מאמרי רבש, עמוד 290, מאמר 926, בועל פרעה, נמצא גם כן בכתבי רבש כרך ג' בעמוד 2085. ניתן למצוא את חומר הלימוד באתר קבלה לעם, kab.co.il, ניתן גם שם לשאול שאלות, שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר פסח, מאמרי רבש,
עמוד 295, נמצא גם כן ברבש ג' בעמוד 85.
בועל פרעה. ויאמר השם אל משה, בועל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו.
Dieu a dit à Moïse, viens Pharaon, parce que j'endurcis son cœur. Et je vais mettre mes signes en lui. Vous devriez comprendre, un, la question du Zohar, pourquoi est-il écrit « Va à Pharaon » Deux, la question du monde. Pourquoi est-ce que le Créateur a dû avoir l'accord de Pharaon s'il voulait sortir les enfants d'Israël d'Égypte? Et troisièmement, la question du monde. Pourquoi a-t-il pris le choix de... a-t-il sorti le choix de tout ça? Et quatre, de mettre mes signes en lui. Si le Créateur veut donner des signes, pourquoi avait-il besoin que Pharaon ait tous ses tourments avec les plaies d'Égypte? Il aurait pu donner simplement les signes d'une autre façon, sans nuire à Pharaon. Afin de clarifier tout ceci, nous devrions premièrement parler de ce que nos sages disent, qu'une personne devrait toujours se voir moitié innocente, moitié coupable. Et s'il sent qu'il a observé les mitzvot, alors qu'il soit béni parce qu'il s'est condamné à une échelle de mérite. Et ça, c'est difficile parce que s'il s'est condamné à une échelle de mérite, comment est-ce qu'il pourrait se voir encore moitié innocent? À moitié coupable. Et aussi, il nous faut comprendre que si nous péchons, alors nous nous condamnons à une échelle de péché. Et comment est-ce que nous pourrions dire par la suite qu'encore une fois, nous sommes moitié innocents, moitié coupables? Nous devrions aussi comprendre que s'il sait qu'il a un mérite, comment est-ce qu'on pourrait lui montrer à mentir et à imaginer des mensonges, ce qui est aussi moitié-moitié? De la même façon, nous devrions comprendre ce que nos sages disent, qu'une personne qui est plus grand que son ami, son inclination est plus grande. Pourquoi? Parce que s'il est un juste, il mérite des punitions pour avoir un plus grand mauvais penchant. Et alors, nous pouvons comprendre ce que nos sages disent, que...
La rechaim yetzer hara nidme lahem kechut ha-seara.
Que si nous transgressons deux fois, alors ça devient permis. Alors pourquoi dire que c'est d'accord de transgresser deux fois? De même, nous devrions comprendre ce qu'ont dit nos sages, que les méchants et le mauvais penchant semblent être de l'épaisseur d'un cheveu, mais pour un autre, ça peut sembler une haute montagne. Alors quelle est la vérité? C'est-à-dire que dans le travail du Créateur, pour qu'il n'y ait pas le pain de la honte, un homme doit faire ce choix et choisir le bien au-dessus du mal. Et par conséquent, même si le Créateur peut sortir les enfants d'Israël hors d'Égypte, s'il leur donne le bon penchant, c'est-à-dire que le Créateur se subjugue et soumet le mauvais penchant pour l'homme, ce n'est pas... idéal pour une personne parce que le Créateur veut que la personne fasse le choix. Il faut qu'on sorte de l'Égypte de notre propre choix et c'est le choix lorsque nous nous sommes d'accord que notre propre Pharaon ne contrôle pas notre propre Israël et c'est pour ça que Pharaon, l'appelons Phara être chon, c'est-à-dire c'est une révélation que par lui, qui veut que tout soit révélé pour lui. Autrement, c'est le roi d'Égypte et il contrôle le corps comme l'Égypte. Et lorsqu'il veut faire quelque chose pour l'amour du Créateur, par conséquent, lorsqu'il veut la révélation, c'est-à-dire que tout soit selon son esprit et sa raison et son esprit vont comprendre qu'il doit faire ses actions, alors il lui permet de le faire. Et par conséquent, Pharaon demande qui est le Créateur, que j'écoute sa voix, et de même, quel est ce travail pour toi, si cette force contrôle ton Israël en toi, ça veut dire cette force, ça veut dire Yasharkel, toi, ton Créateur. Et tout ce qu'il a fait, c'était pour l'amour du Créateur, c'est-à-dire pour donner, comme nos sages ont dit, qu'il n'y aura pas de Dieu étranger en toi. Mais qu'est-ce que s'il y a un Dieu étranger dans une personne? Ces personnes disent que c'est le mauvais penchant, et ça veut dire que si tu as besoin de faire quelque chose pour le Créateur, c'est-à-dire que pour lui, c'est étranger. Et c'est comme étranger de faire une telle action, parce que c'est l'épouser d'Israël, et ce qu'il veut, c'est que son action soit droite au Créateur, et par conséquent, pour sortir Israël du contrôle de l'Égypte et du Pharaon, c'est-à-dire pour qu'il soit d'accord de faire ce choix et de tout faire pour donner, tu dois avoir la lumière de la Torah. Comme nos sages ont dit, la lumière en elle corrige. Et alors, nous pouvons comprendre les mots de « viens » comme dans « viens à Pharaon » plutôt que « va à Pharaon ». Parce que « viens », ça veut dire « venons ensemble », les deux ensemble. Et une personne ne devrait pas penser qu'elle-même peut contrôler son mauvais penchant. Comme le verset le dit, le mauvais penchant d'un homme le vint à chaque jour et sans l'aide du Créateur, il ne pourrait pas prévaloir. Est-ce que c'est clair jusqu'ici, demande Rav? Soyez un peu plus à l'intérieur de tout ça, pénétrez-le et ne le laissez pas passer par une oreille et sortir par l'autre. Comment est-ce que le Créateur aide en pratique une personne, comme il est dit, vient, et comment est-ce que ça se manifeste par rapport à va? Va, dit Rav, c'est lorsqu'une personne et vient, c'est lorsque le Créateur éveille une personne et lui dit « viens ». Mais j'ai posé en pratique comment ça se passe. Mais en pratique, c'est quoi Pharaon? C'est le mauvais penchant en moi. Pharaon, c'est le dos ou l'autre côté du Créateur, d'accord? Et complètement opéré par le Créateur, il n'y a rien dormi lui, oui. Et alors tu entres ces deux forces, la force directe et la force indirecte. Et comme dans une machine à laver, il te lave. Alors, ce qu'il te dit, c'est que le fait que je suis dans cette loupe, si nous pouvons l'appeler ça de cette façon, c'est que comme ça, son aide va venir. Oui, bien sûr, dira. Et tout ça, c'est toujours pour t'éveiller et à te pour que tu sois en friction et que tu évoques des pensées plus claires et plus précises en toi, et des pensées élevées, et de nouveaux besoins et dans l'esprit et l'émotion et des discernements, et plus afin de donner et qu'afin de recevoir, et tu vas comprendre le matériel mieux et tu vas pouvoir t'élever au-dessus de la matière aussi. Mais comme une machine à laver, je suis dans cette machine à laver, je dois bien répondre comme en collaboration avec lui. Ce n'est pas que tu dois répondre correctement, dit Rav. Tes réponses sont aussi nécessaires, dit Rav. Mais personne n'a posé de questions sur les réponses, mais plutôt sensibilité. Est-ce qu'il y a un autre mot que nous pourrions utiliser que sensibilité? Ah, la gentillesse de l'âme. Oui, oui, c'est bien ça. Alors, disons la gentillesse de l'âme. Utilisons sensibilité. Ce n'est pas tout le monde qui est comme toi. Alors, sensibilité. Sensibilité à comment tu es opéré. Alors, je devrais désirer connaître ça. Oui, tu dois désirer ressentir l'action du Créateur sur toi, directement. Et comme le Créateur, indirectement, comme Pharaon, et à travers tous ses moyens, qui s'appelle ce monde, incluant l'Égypte, les enfants d'Israël, et ainsi de suite. Et quand tout est partout, c'est à l'intérieur de toi. Si je comprends bien, ça ne se termine jamais, mais à un certain point, je me mets à aimer ça et à le rechercher. Oui, nous pourrions dire ça, dit Rav. Il y a quelque chose d'intéressant dans le texte ici. Il est écrit qu'une personne va être d'accord que le peuple d'Israël va sortir d'exil, et c'est notre propre exil personnel, et de choisir et d'être d'accord que notre propre contrôle, Pharaon, ne contrôle plus notre Israël. Alors, c'est quoi l'Israël qui se trouve dans Pharaon? Non, dit Rav. C'est incorrect. L'aspect d'Israël dans une personne et le pharaon dans une personne et l'Israël dans une personne. Alors, une personne n'est pas d'accord d'être sous la férule du pharaon. Elle ne veut pas que son ego le dirige et même s'il ne comprend pas comment ça pourrait se passer autrement, il veut une autre force qui le gouverne. Continuons avec le texte. Par conséquent, une personne ne peut pas dire qu'elle ne peut vaincre le mal en elle parce qu'elle devrait croire que le Créateur l'aide. Et ça, c'est le sens de « vient ». Et le Saint Zohar, par rapport à ce que nous disons, qu'une personne qui vient pour se purifier est aidée. Et nous demandons, et en quoi est-il aidé? Et il répond, avec une âme sainte. S'il mérite un peu, il reçoit la lumière de Nefesh. S'il mérite plus, il reçoit la lumière de Ruach. Et chaque fois qu'une personne se purifie et surmonte son mauvais penchant, des degrés plus élevés se révèlent en lui, ce qui s'appelle la Torah ou la lumière de la Torah. Et maintenant, nous comprenons pourquoi il a l'endurcissement du cœur et pourquoi aussi, si le Créateur veut lui donner des signes, qui doit souffrir en vain et par cet endurcissement du cœur. Et ça, c'est le fait que lorsqu'une personne veut marcher sur le chemin du Créateur, sur le chemin de la vérité, il ne pourrait pas dire qu'il ne veut pas le faire parce qu'il y a plusieurs transgressions et iniquités. Et ça n'a pas à voir avec le fait d'en venir à une cour plus élevée où on jugera à quel point on n'a plus de mérite. Non, ça a tout à voir avec la façon dont une personne se juge elle-même et se dit qu'elle ne peut pas faire un choix parce que tu ne peux pas faire de choix lorsque tu as deux choses égales, que tu peux faire un choix et décider entre les deux. Et nous pouvons dire que nous pouvons nous voir comme moitié innocent, moitié coupable parce que le Créateur l'a fait exprès pour qu'il y ait toujours un poids égal entre le bien et le mal pour qu'il puisse choisir entre l'un ou l'autre. Et par conséquent, s'il observe une mitzvah et se condamne à une échelle de mérite, alors c'est bien. Et nous disons que chaque personne qui est plus grand que son ami, son inclination est plus grande. C'est-à-dire que le Créateur a endurci son cœur exprès pour qu'il puisse décider à nouveau. Et chaque fois qu'il décide, l'homme obtient plus de lettres et de signes de la Torah. C'est-à-dire que les signes ne sont pas pour l'amour du Créateur, mais plutôt pour l'amour de l'homme. Et il s'avère qu'à chaque fois que son cœur s'endurcit, c'est pour le bien de l'homme. Et par là, il obtient les lettres de la Torah. Et même si une personne ne ressent pas ce qu'elle devrait ressentir lorsque ça arrive, et lorsque nous finissons tout son travail, et nous révélons à lui sur quoi il travaille tout le temps, et comme l'histoire de Balasulam qui dit que c'est tout comme chaque fois qu'une personne n'a qu'un zéro, chaque fois elle voit que son Dieu est un zéro, et la première fois il a un zéro, et la deuxième fois il a deux zéros, et la troisième fois trois zéros, jusqu'à ce qu'il ait plusieurs zéros. mais une fois qu'il a terminé son travail, il n'a qu'un seul zéro. Et alors, il s'avère que nous pouvons avoir un zéro avec un, ce qui fait 10, ou nous pourrions avoir un million ou plus. Il s'avère que chaque fois que nous avons plus de lettres de la Torah, ça c'est la signification de là où j'ai mis mes signes en lui.
Chez l'autre.
Des questions? Je ne sais pas quoi ajouter, dit Rav. C'est tout le travail d'une personne est discuté ici. Ce n'est pas clair pour moi cette histoire avec Pharaon et comment faire le choix. Il y a une personne, dit Rav. Une personne doit être amenée à travers toutes sortes de moyens à la forme d'Adam Richon. Comme c'était avant le péché, mais avec toutes les données et l'information qu'il avait en lui après le péché. Et ici est la question, comment y arriver? Alors, mettez-vous à y penser. Comment vous, vous le feriez? L'humain a un désir de recevoir qui est détaché du Créateur, parce que le Créateur est un pur désir de donner. Et comment l'amener à devenir Adam, c'est-à-dire similaire au Créateur, parce qu'en vérité, nous sommes des animaux. Nous nous appelons des humains, mais en fait, comment pouvons-nous apporter cette créature et l'égaliser au Créateur pour qu'elle devienne Adam? Alors, s'il vous plaît, la première étape, c'est l'Égypte, d'en venir à la reconnaissance, comme nous l'avons appris. Nous apprenons dans le groupe qu'il nous faut en venir à la connexion, que nous le comprenions ou non. Nous savons que nous sommes une partie de cet Adam Richon, parce qu'Adam Richon inclut toute la création en lui. Et ça, ça veut dire que ça se trouve dans l'amour au-dessus de la haine, parce que l'amour couvre tous les crimes par rapport à tout ce qui existe, le minéral, le végétal, l'animal et les gens. Ça existe d'une façon égale envers tout le monde, et aimante, et bienveillante, et connectée envers tout le monde. Et comment en venir à cela? Dites-moi, comment nous amener à cet état? Nous avons un groupe, une dizaine, où nous essayons de nous connecter, et nous voyons à quel point nous ne pouvons y arriver. Et en fait, nous voyons que nous ne pouvons pas le faire et par conséquent, nous nous tournons vers le Créateur pour qu'il le fasse pour nous et c'est tout. C'est aussi simple que cela. C'est un travail très simple et très primitif. Il n'y a rien de plus simple que ça. C'est comme la nanny à la maternelle qui dit aux enfants, s'il vous plaît, entendez-vous bien ensemble. Mais les enfants n'y arrivent pas, alors ils se mettent à pleurer et à demander de l'aide. Et alors la gardienne arrive et essaie de les aider à ce qu'il y ait une harmonie et aussitôt ils se remettent à se chamailler, à demander pour l'aide. Alors il nous faut savoir comment demander pour de l'aide. Nous l'entendons, mais nous ne le faisons pas. Il nous faut savoir qu'on peut être aidé par le Créateur et qu'il le fera pour nous. Et quand est-ce que nous demandons pour de l'aide? C'est lorsque, d'une certaine façon, nous ressentons que nous sommes conscients qu'il veut le faire et qu'il est capable de le faire pour nous. Mais en plus de la connexion, il nous faut travailler sur la grandeur du Créateur pour que nous puissions lui demander de l'aide. Alors, il y a quelques points ici et c'est tout. Se connecter, ce que nous pouvons faire égoïstement, et premièrement, nous essayons de nous connecter avec nos égos et en essayant fort de nous connecter et d'être dans l'étude et dans d'autres activités qui attirent à nous la lumière qui corrige parce que nous nous connectons à la source de la lumière, encore une fois. Et alors, nous ressentons que nous en sommes incapables, que nous ne le voulons pas, que nous n'avons pas incendie et les gens s'enfuient. Certains restent, mais ceux qui restent doivent réaliser que leur problème, c'est de travailler sur la grandeur du Créateur, à la fois comme un but et comme la source de puissance qui va nous apporter au but. Et l'avancement vers le but, c'est de nous rapprocher toujours entre nous et de resserrer les liens entre nous. Et écrivez ces deux ou trois points par écrit et vous n'auriez besoin de rien d'autre. Alors, souvenez-vous-en, la connexion est impossible, de découvrir que nous en sommes incapables et immédiatement nous adresser au Créateur. Et il doit être là comme grand à nos yeux et qu'il est le but. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Moi, le groupe et le Créateur. Moi, je dois m'intégrer au groupe avec eux pour atteindre le but de la création par la lumière qui corrige. Et par là, nous nous rapprochons de cette forme qui s'appelle le Créateur, qui n'existe pas, et nous la construisons, et c'est tout. Nous apprenons que notre point de choix, c'est entre notre mauvais penchant et notre bon penchant. C'est ce que tu as établi. Cette chose, c'est là où nous établissons là-dedans. Et en fait, on dirait que c'est dans le Pharaon que se trouve le point de choix dans ce texte. Non, pas vraiment dans Pharaon, mais entre la bonne connexion entre le Créateur et le Pharaon, dira. C'est là, dans le milieu de Tiferet, que se trouve le choix. Alors, Pharaon n'a pas le choix. Non, non, et le Créateur n'a pas le choix non plus, dira. Si nous l'avions déjà, comment aurait-il le choix? Pourrait-il faire le mal? Non. Il ne fait toujours que le bien, il n'a pas de choix en cela. Et le Créateur n'a pas de choix parce qu'il ne peut faire que le mal. Il ne peut faire que... Il n'y a que la personne qui n'a le choix. Qu'est-ce que ça veut dire de décider de recevoir les lettres de la Torah? Ça veut dire que les lettres, c'est le noir sur le blanc. La forme du Créateur et la forme du Pharaon sont comparées l'une à l'autre. Et par là, une personne les écrit en lui-même parce qu'il a le désir. Et lorsqu'il combine la lumière et les ténèbres, ça amène les lettres. Et si... Il le fait correctement, tout comme une vieille machine à écrire, vous savez, tap, 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 tap. Et alors, il écrit le livre de la Torah sur ses désirs, et il les imprime sur ses désirs. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces décisions, ces signes? Ça veut dire de se condamner à la bonne force ou la mauvaise force chaque fois. Mais comment une personne sait-elle qu'elle se condamne? C'est par la foi au-dessus de la raison, dit Rav. Lorsqu'une personne veut... toujours prendre l'esprit et la tête du supérieur. Je suis l'inférieur et je travaille avec mon esprit. Et ça veut dire que je suis une bête. Et si je veux travailler avec un esprit supérieur, alors je suis inclus comme un désir de recevoir dans le désir de donner au-dessus de moi et j'utilise sa tête et ça veut dire que moi, je suis un homme, que je deviens similaire au Créateur. Qu'est-ce que j'utilise? J'utilise un esprit supérieur qui, envers moi, est appelé la foi au-dessus de la raison parce que c'est au-dessus de ma raison. Et ça se passe suivant ma raison ou au-dessus de ma raison. C'est très simple. Et il faut simplement accepter ces choses et comme elles sont, très simples. D'accord, tout le monde semble s'être endormi. Oui, toi? Oui, selon la façon dont nous apprenons ou travaillons dans le groupe, À la base, il faut passer de la réception au don. C'est comme ça que je le comprends et je vois que chaque fois dans l'étude, lorsque j'essaie de comprendre et que je vois que je ne comprends pas et qu'il y a cette lutte intérieure où tu penses toujours à la dizaine et que tu fais tout pour eux et qu'ils seront dans le don et tout d'un coup, tu as un grand plaisir. Et qu'est-ce que ça veut dire de ne pas le prendre pour nous-mêmes? Parce que si je le prends pour moi-même, c'est comme si je volais. Et à ce point-là, lorsque je le prends pour moi-même, c'est comme si nous voyons que nous pouvons nous brûler et nous souffrons et nous ne voulons pas que ça arrive. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce point-là lorsqu'une personne atteint ce point où elle ne veut pas le prendre pour elle-même? Quand, dira-t-il? Non, elle ne veut pas prendre ça pour elle, mais il ressent le plaisir qui veut rentrer, mais lui, il ne veut pas le prendre pour lui-même. Passe-le rapidement au groupe, dit Rav. Mais comment le passer rapidement au groupe? Je l'exprime dans les leçons, ou sur Twitter, ou sur mon blog, ou des trucs comme ça. Comment? Écris un poème au Créateur. Maintenant, je ressens ce plaisir qui veut rentrer en moi et mon corps en tremble et je veux le passer au reste du cli, non seulement le cli, mais au monde entier. Comment le faire? Quoi faire? Diffuse, dit Rav. Et là, il faut que j'aille diffuser? Oui, si tu as 5 minutes. Merci. Je suis très sérieux, dit Rav. Essaie d'exprimer ça et de les déverser vers l'extérieur, que ça va te vider et qu'ensuite tu pourras recevoir la prochaine portion. Et ça, c'est le sens de récipient entremêlé. Ah, d'accord, il y a toi et il y a lui, les deux vous êtes devant moi. Y a-t-il d'autres personnes pour poser une question? Pourquoi est-ce que les kabbalistes ne parlent pas, ils ne nous parlent pas de l'atteinte, ce qu'ils ont atteint? Atteinte, dit Rav, dans un langage que nous pourrions comprendre, comment serait-il possible de communiquer une atteinte que tu comprendras? Nous avons 800 volumes qui nous parlent de comment travailler, que nous avons des formules et nous avons tests et tout ça, mais nous n'avons pas un seul volume. Où... Ce que je veux dire, c'est que je pense à moi-même et je suis une personne ordinaire et égoïste. Et donne-moi un exemple. Qu'est-ce qui arrive lorsque j'atteins ce genre de truc? Donne-moi un volume de ça pour qu'il y ait des mots auxquels je puisse aspirer. Je pourrais écrire sur la teinte, dit Rav, mais ce serait dans la forme de lettres que tu ne seras pas capable de lire. Et alors, comment voudrais-tu que j'y arrive? Je ne comprends pas de quelle façon est-ce que la teinte pourrait être transmise à toi. Hier, je me suis levé et puis je suis venu prendre un café et puis maintenant, dit Rav, j'ai de la lumière pour toi, mais où est-ce que je la déverse? Avec des exemples. Mais quel exemple, dit Rav, déverser avec des exemples? Je ne comprends pas. Mais il y a une fois, tu nous as donné cette image. Apporte-moi le manque, dit Rav, qui va s'appareiller à la lumière. Et alors, je vais pouvoir le déverser en toi. C'est ce que nous appelons plus que le veau ne veut têter, la vache veut le nourrir. J'ai les mamelles, alors venez, et puis nourrissez-vous à mes mamelles. La lumière est là. Mais à quoi est-ce que ça ressemble lorsqu'une personne atteint? Ça, nous le voyons comme le plaisir de donner. Ah, là, je me mets à fantasmer sur le désir de donner. Mais comment est-ce que c'est possible? Ce serait impossible, dit Rav. C'est pour ça que nous appelons ça la sagesse cachée, parce que tu la caches à toi-même. Mais c'est bien que tu aies soulevé le point. Parce qu'il y a un manque, et là, il faut que tu t'amènes à la révélation, et c'est en chemin. Tu es sur la bonne voie et le plus important, c'est de comprendre ces principes, qu'il n'y a pas d'autre choix. Et aussi, regarde tout le processus par lequel nous passons et il y a plein de gens qui s'enfuient et il ne faut pas que nous leur ressemblions. Mais le durcissement du cœur sera toujours là et il va croître parce que sans ça, tu ne pourrais pas t'approcher de l'exode d'Égypte. Avant que tu aies entré en terre d'Israël, mais tout ça, ça doit se mettre en place. Et si tu t'enfuis, tu vas perdre ton cercle de vie. Imagine-toi tous les milliers de personnes qui sont passées par cette place et qui ont perdu leur cercle de vie, leur cycle de vie, et qui ont perdu leur temps et parfois reviennent. Il y a, comme Balasulam avait un fils, Shmuel Ashlag, le tout petit. Non, pas Balasulam, Rabash, oui, avait un fils qui s'appelait Shmuel. Et il est mort.
Lorsqu'il
était petit, je ne sais pas, peut-être 12, 13 ans, ou même 15 peut-être. Et quand Balasulam a parlé à son petit-fils, Balasulam, n'est-ce pas, oui? C'est Rabash qui me l'a dit. Et Rabash m'a dit que Balasulam avait dit à Shmuel ce qui était le travail spirituel. Et cet enfant, il était toujours un enfant, eh bien, pas moins que 13 ans, mais pas loin de la 13 ou 14 ans. Et il a dit, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il lui a donné ce sentiment à quel point c'était opposé à la nature humaine. Et il a dit, c'est impossible. Et toute sa vie, pendant toutes ces années, il n'a jamais touché au travail du Créateur. Il savait Tess par cœur. Il le connaissait, le ressentait intellectuellement. Il le connaissait intellectuellement, mais pas émotivement, pas du tout. Il était si profondément impressionné par l'explication du Balasulam, où il lui a simplement fait ressentir à quel point il s'était opposé à la nature humaine. Rabash m'a raconté tout ça, et après Rabash, il a été un rabbin au même endroit pendant quelques années après qu'il soit décédé. Et alors, qu'est-ce que je vous dis? C'est qu'il y a une prohibition complète sur le fait de communiquer de telles sensations d'un rab à un étudiant, parce que par là, tu voles l'étudiant de plusieurs discernements qu'il doit lui-même passer à travers et recevoir à travers les amis et le groupe, etc. Alors, je ne comprends pas comment ça peut arriver qu'avec Balasulam, bien sûr qu'il ne voulait pas causer ça à son grand-fils, mais à son petit-fils, mais c'est ce qui est arrivé. La mission du jour de Haïfa, allons-y. Nous avons une mise à jour sur Pessah et nous avons une préparation pour la Pâque et tous les groupes du nord d'Israël se sont rassemblés à Carmiel comme préparation. Il y a la dizaine numéro 10 de Petah Tikva qui est à Ashdod. Il y a aussi un party là-bas et nous voulons te dire que nous nous préparons déjà pour Pessah et nous voulons te dire que la semaine prochaine, le 25 mars, nous allons passer à une vitesse supérieure et tous les groupes d'Israël vont venir à Petah Tikva pour préparer cet endroit pour le congé et Il y aura 6 ou 7 groupes qui se sont enregistrés pour prendre part à cette préparation et nous invitons tous les groupes à s'enregistrer, à s'inscrire. Non, nous parlons des jours avant la Pâque. Nous allons préparer cette place et des gens de partout en Israël vont venir pendant la leçon du matin pour nous aider à préparer. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes tous invités. Et aussi, pendant le congé de Pessah lui-même, pendant cette semaine, nous allons te mettre à jour avec des horaires et que nous allons être l'hôte de tous les groupes qui veulent venir. Nous allons vous donner plus de détails dans l'avenir, les Reims. Haïfa. Alors, les groupes en dizaines aujourd'hui, c'était Petah Tikva, la dizaine numéro 1. Kuter, dizaine numéro 3. Il y avait le Pays-Bas, Brésil, dizaine numéro 4. La dizaine numéro 15 de l'Amérique du Nord. Et il y avait Haïfa, dizaine numéro 1. Chaque ami agit envers sa dizaine comme si le Créateur lui avait donné un grand éveil et qu'il lui avait montré avec des actions exprès. Alors, encore une fois, chaque ami agit envers sa dizaine comme si le Créateur lui avait donné un grand éveil et il montre à tout le monde avec des actions exprès, approprié. Nous souhaitons une bonne journée à tous ceux qui nous regardent à la télévision et nous allons avoir une soirée d'introduction à la Kabbale en Israël. Et nous sommes heureux de vous inviter à cet événement sur la sagesse de la Kabbale et comment elle se relie à votre vie. Ça arrivera partout dans Israël. La mission sera de 30 shekels et vous pouvez vous inscrire avant de venir. Vous pouvez appeler le numéro sur l'écran ou visiter le site Internet. Il y a le congrès Orlazouane, le congrès nord-américain. Nous vous invitons tous à venir à ce congrès au New Jersey, à Newark. Ce sera du du 3 mai au 6 mai. Et pour plus de détails, kabbala.info. Alors, passons maintenant au résumé de la leçon. Chaque personne écrit quelques phrases sur la leçon. À titre de résumé, nous prenons 5 minutes silencieuse pour ce faire.
כל חבר מוזמן לשתף את סיכום השיעור שלו בסביבה טובה ובמהלך היום באחת מהרשתות החברתיות באינטרנט.
On est invité à partager son résumé sur Sviva Tova ou sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et chantons maintenant ensemble.
שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד Oh,